Ici Véronique Bellemare-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, mélatonine à la garderie, suite de la saga. Dans le dernier épisode, je me suis un peu vidé le cœur en ce qui a trait à l'usage de la mélatonine chez les enfants. Mais il faut dire que justement, cette situation qui a été dénoncée largement dans les médias cette semaine, elle nous donne à réfléchir, elle nous permet de débattre au sujet de l'usage de la mélatonine chez les enfants. Et ça, je trouve ça tellement essentiel. Il fallait peut-être qu'enfin une situation de ce type se produise. C'est paradoxal parce qu'évidemment, on n'aurait pas voulu que ça arrive, mais pour que les gens en prennent conscience que ce n'est pas quelque chose que l'on devrait finalement attribuer aux enfants de façon générale. Évidemment, il y a des avis contraires qu'on a entendus par la suite, donc je vais vous résumer un petit peu la suite de la saga. Donc, premièrement, on a eu Diane Lamar, qui est une pharmacienne qui est très réputée ici au Québec, qui a réitéré le fait qu'il n'y avait pas de posologie de mélatonine qui soit recommandée à cet âge-là. Donc, à la base, en bas de 12 ans, c'est contre-indiqué par Santé Canada d'administrer de la mélatonine aux enfants. Ce qu'elle relevait elle-même, même en étant pharmacienne, c'était qu'il fallait avant tout respecter leur cycle de sommeil. Et moi, j'ajouterais de respecter aussi leur cycle d'éveil. Donc, on revient aux fameux rythmes naturels sur lesquels j'insiste énormément et qui sont la base de tout le mécanisme de sommeil. Et ce qu'elle relevait aussi, c'est que la mélatonine, dans ce cas-là, où une éducatrice a décidé, sans aucun avis, de finalement d'administrer de la mélatonine, probablement dans le but d'aider les enfants à s'assagir avant la sieste. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à cette personne-là, mais en fait, ce qui est intéressant de soulever aussi, et que Mme Lamar soulevait, c'est que on ne connaît jamais la source de provenance de ce supplément qu'est la mélatonine synthétique. En fait, au Canada, du moins, ce sont des produits qui ne sont pas soumis au même contrôle que les médicaments purement chimiques. Donc, il y a toutes sortes de provenances, toutes sortes de concentrations, il y a beaucoup de variations d'une marque à l'autre. Et en plus, le dosage va aussi varier selon les concentrations et tout ça. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune posologie qui est recommandée chez les enfants. Et comme elle le soulevait aussi, c'est que dans les garderies du côté du Québec, il y a des produits qui, selon un protocole très strict, peuvent parfois être administrés aux enfants avec l'accord des parents. Et il y a des exceptions qui, habituellement, peuvent peut-être être administrées sans l'accord des parents, que ce sont simplement l'acétaminophène ou le chasse-moustique. Donc, la mélatonine n'est pas du tout dans cette catégorie-là. Et en fait, du côté de certains médecins, il y a tendance à minimiser un peu les impacts possibles de la mélatonine. Alors, bien sûr, c'est une hormone qui est sécrétée par notre cerveau, principalement durant la nuit. Alors, ce n'est pas fait pour être administré le jour. Dans des pays comme l'Islande, par exemple, où il fait jour 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois par année, là, oui, il peut y avoir des indications pour administrer la mélatonine, mais encore là, ce ne serait pas du tout quelque chose qu'on recommanderait auprès des enfants. Donc, même si on est adulte, on doit avant tout mettre en place pour réguler correctement notre rythme circadien, notre horloge biologique, avant de recourir à ce type de supplément. Bien sûr, il y a des enfants, par contre, qui vont faire exception, qui vont, entre autres, avoir des troubles neurodéveloppementaux, qui vont peut-être avoir un déficit de mélatonine. Ça, j'en avais déjà glissé un mot. Entre autres, on va le voir aussi chez les enfants non-voyants, les enfants autistes, les enfants qui ont des troubles particuliers. Et dans ces cas-là, ça va être sur indication du médecin. Mais ce n'est pas parce que c'est un produit qui est en vente libre à la pharmacie qu'on peut en faire n'importe quoi. C'est quand même, même si c'est un produit soi-disant naturel, ça a quand même un effet réel. Et oui, il peut y avoir aussi des effets secondaires à la prise de la mélatonine, même si généralement on ne croit pas qu'il soit très grave, mais il peut y en avoir. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est l'innocuité, comme je l'avais soulevé aussi dans l'épisode précédent. Mais dans tous les cas, ce n'est pas du tout un supplément qu'on utiliserait même chez un adulte pour faire la sieste, par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise comme boost à l'approche du coucher, idéalement, pour recaler son horloge biologique, par exemple, si on veut se remettre sur un fuseau un peu plus précoce. Et finalement, c'est une façon d'envoyer des signaux supplémentaires à l'horloge biologique lorsqu'on est, par exemple, en décalage horaire. Alors, c'est vraiment l'usage qui devrait être fait de la mélatonine. Mais j'ai trouvé quand même intéressant que le ministère s'en mêle. Et d'ailleurs, suite à tout ça, la police de Trois-Rivières a confirmé qu'une enquête criminelle a été ouverte au sujet des gestes allégués qui seraient survenus à la garderie. Donc, c'est Radio-Canada qui nous le confirme. Et après avoir envoyé justement ce message adressé aux parents qui avaient soulevé une petite commotion dans la garderie, finalement, il y a de nombreux parents qui vont être rencontrés par la police et qui vont participer à cette enquête. Alors, c'est quand même intéressant de voir que là, il y a une vraie mobilisation. Il y a quand même 130 enfants qui étaient dans cette garderie. On a essayé de tout de suite limiter, si on veut, les inquiétudes des parents par rapport à cette situation-là. Et il y a aussi une visite du ministère de la Famille qui est venue recueillir des informations pertinentes relatives au dossier. Alors, c'est quand même finalement quelque chose qui soulève beaucoup de questionnements et heureusement, le débat est en train de se faire. On sait que des actions ont été entreprises auprès de l'éducatrice fautive. Elle a été déjà renvoyée de son poste à la garderie et elle va l'être, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, elle est sous enquête dans un autre poste qu'elle occupait dans une municipalité. Alors, selon nos sources, comme le dit Radio-Canada, il y a une enquête interne, puis on va voir ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc, bref, il y a les contacts avec les mineurs qui ont même été interdits à cette éducatrice-là jusqu'à nouvel ordre dans le cadre de ses fonctions. Et aussi, ben, on va voir si finalement cette enquête-là se solde aussi par un renvoi. Alors, c'est quand même toute une histoire, toute une saga, cette saga de la mélatonine à la garderie, mais qui aura eu le mérite de, au moins, donner une occasion d'en discuter, de cette démocratisation de la mélatonine auprès des enfants et de son usage souvent inapproprié. Et encore une fois, je tiens à le répéter, si vous êtes des parents et que vous avez fait l'usage de la mélatonine ou que vous le faites avec votre enfant, mon but n'est pas de vous culpabiliser, n'est pas non plus de vous faire paniquer, mais simplement que vous ayez l'information juste. En fait, à cet âge-là, les enfants ont la pleine capacité naturelle de produire leur mélatonine, qui est une hormone qu'on sécrète, que le cerveau sécrète, et ce n'est qu'à partir de 50 ans qu'habituellement on commence à avoir de la difficulté tranquillement à en produire autant qu'auparavant et qu'il peut y avoir un déficit. Mais avant l'âge de 50 ans, habituellement, on n'a pas vraiment de problème pour sécréter sa mélatonine, sauf si, bien sûr, on ne fait pas ce qu'il faut durant le jour pour bien préparer notre nuit. Donc, si nos rythmes de la journée ne sont pas bien placés et si on ne s'expose pas au bon stimulus au bon moment, bien forcément, on ne va pas sécréter les bonnes hormones au bon moment et on va avoir du mal à basculer du mode éveil au mode sommeil le soir venu. Donc, c'est vraiment ça la clé. Il faut revenir à ça. Et comme si vous êtes un parent, ben il va falloir justement vous rééduquer et rééduquer votre enfant à dormir en suivant ses rythmes et besoins naturels. Donc, c'est le meilleur message que je peux vous laisser aujourd'hui. Alors voilà pour cette saga qui, je pense, va se clore à peu près ici. Si jamais il y a d'autres développements qui seraient dignes de partage, j'y reviendrai. Mais sinon, dans tous les cas, il me fera plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode d'SOS Sommeil. L'Institut Somna offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé 3 nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca. Thank you.